territoire possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
On va sortir du capitalisme. C'est possible. Il y a des choses qui marchent bien. On n'est pas condamné à rester dans ce système où il y a des imbéciles ou des malades comme Trump, comme Musk, comme Bernard Arnault, comme Vincent Bolloré qui sont aux commandes avec toutes leurs conneries et leurs avions et leurs idées fascistes. On peut vivre autrement tout en étant bien. Il faut être lucide et gai. Il y a la catastrophe écologique, il y a ses riches, il y a le fascisme qui est aux portes. On regarde ça. Mais en même temps, il faut qu'on soit gai. Parce que si on est dans la morosité, effectivement, on n'aura pas l'énergie pour se battre. Être gay, ça veut aussi dire qu'on rentre dans le collectif. Collectivement, on va faire face à la gravité du temps.
C'est une vieille roue qu'on redécouvre régulièrement dans cette émission. Un moteur essentiel d'une lutte efficace, c'est la joie qu'on a à la mener. Une lutte joyeuse est plus fédératrice et donc plus efficace qu'un combat lugubre mené par des gens pas drôles. Et de Notre-Dame-des-Landes jusqu'aux anti-mégabassines, en passant par plein d'autres mouvements, on refait régulièrement le constat que la joie est fondamentale. Ce rappel, on le doit à votre invité d'aujourd'hui, Hervé Kempf, journaliste et cofondateur de l'excellent site Reporter, pour une heure de conversation à bâton rompu, conversation qui va notamment vous emmener vers la notion absurde et malhonnête d'éco-terrorisme, si souvent invoqué, notamment par des personnages troubles, douteux, dangereux, sinistres de l'intérieur comme de l'extérieur. Pour Hervé Kempf, comme pour d'autres, le terme d'éco-terrorisme est d'abord un non-sens.
Il n'y a pas d'écolo-terroriste. Je ne connais pas de mouvement écologiste qui ait voulu tuer quiconque. Sainte-Soline, en mars 2023, il y avait eu un déchaînement de police, il y a eu 5000 grenades lancées en 2 heures, des flashballs, des LBD, 2 personnes dans le coma, des dizaines de blessés, c'était vraiment une horreur. On allait pour sauver l'eau, on allait pour défendre l'eau et ils veulent nous tuer. S'il faut employer ce mot de terroriste, nous sommes maintenant dans une situation où nous sommes face à des états terroristes.
Orwell l'avait bien démontré dans 1984, la dictature commence par les esprits et par faire dire aux mots des choses qu'ils ne veulent pas dire. La première résistance est donc intellectuelle et passe par une véritable information établie par des gens intellectuellement honnêtes, comme celles et ceux qui écrivent et dessinent dans Reporter, formidable site d'information indépendant des puissances d'argent, financé par son lectorat et en accès libre. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off. Bonjour Hervé Kempf.
Bonjour.
J'avais eu le plaisir d'échanger avec toi en 2011 lors de la sortie de ton bouquin « L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie ». J'avais été très intéressé précédemment en 2007 par ton « Comment les riches détruisent la planète ». Et puis l'occasion de cette reprise de contact et l'adaptation en bande dessinée avec ton collègue, camarade et complice, le dessinateur Juan Mendez. Une adaptation en BD, donc sortie en 2024, de « Comment les riches détruisent la planète ».
Ravage la planète.
Le titre a changé pour la BD.
Ben oui, parce que la situation a changé. C'est plus grave. Ils sont devenus de plus en plus fous. Et l'ampleur de la destruction écologique a atteint un niveau historique. Donc malheureusement, il fallait marquer l'évolution en 15 ans de ce qui s'était passé. Et puis plus globalement, ce n'est pas une adaptation, c'est vraiment une autre histoire parce que le talent de Juan est vraiment important pour faire passer les idées, pour faire passer l'évolution des choses et pour décrire ce qu'on voulait raconter.
Souvent, on parle du système capitaliste, comme si c'était une chose inerte et pas habitée par des êtres humains. Mais en fait, derrière ce qu'on appelle le système capitaliste, c'est ce que pointe le bouquin, c'est qu'il y a des gens, en fait, des êtres humains malades mentalement. Ce concours de celui qui pisse le plus loin, de celui qui a le plus gros yacht, le plus gros jet privé, les fringues les plus chères, etc. Une maladie d'ostentation et une maladie d'accumulation. Et je trouvais ça intéressant d'incarner le système capitaliste qui est animé en fait par des êtres humains malades.
Bah, tu as très bien résumé une des idées de ce livre. Et effectivement, sur le plan politique, je crois que les mots comme capitalisme, néolibéralisme, productivisme peuvent faire peur. ou simplement générer de l'incompréhension chez beaucoup de personnes, alors qu'en fait, ce sont des idées qui décrivent une réalité qui est devenue historiquement indiscutable et qu'effectivement, derrière toutes ces idées, toutes ces tentatives de qualifier et de décrire un système, il y a des personnes, il y a des humains, il y a des êtres humains avec leurs défauts, quelques qualités éventuellement, il n'y a pas de doute là-dessus, mais on est vraiment dans cette situation. Et quand on est comme en ce début d'année 2025, où on voit arriver Donald Trump et Elon Musk à la tête quasiment de ce qui reste la première puissance du monde et qui s'assume totalement comme capitaliste, on a là une illustration parfaite de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que nous sommes dirigés par des personnes extrêmement riches qui assument totalement et cette extrême richesse et cette hubris, c'est-à-dire cette envie d'aller toujours plus loin, toujours plus fort et qui renvoie aussi à de la cupidité et puis une sorte de mépris des autres appuyée sur l'idée, la croyance plus exactement, qu'ils sont en tant que personnes des gens absolument admirables. Et tout ça ne serait pas grave s'ils étaient cantonnés dans une maison de repos. On les laisserait rencontrer leur psychologue ou leur psychiatre tous les jours entre deux parties de boules et une promenade au bord du lac. Mais là, malheureusement, ils influencent très fortement notre vie à toutes et à tous. Puis dans un sens qui est catastrophique, quoi.
Depuis la sortie de « Comment les riches détruisent la planète », donc en 2007, qu'est-ce qui a, à ton sens, a changé ?
Bon, ce qui a changé, d'abord, c'est l'aggravation de la situation écologique. Je suis un écologiste au sens où quelqu'un extrêmement préoccupé par les conditions d'existence de l'humanité et des conditions d'existence qui permettent à cette humanité de vivre dans la dignité. Et de ce point de vue-là, nous sommes absolument dépendants de l'état, de la santé, de la biosphère. Et ce qui s'est passé depuis 15 ans, malheureusement, c'est que sur tous les indicateurs possibles, sur tous les points d'observation possibles, l'état de la biosphère s'est dégradé. Donc ça, c'est vraiment le caractère historique, au sens presque jamais vu, au sens qui caractérise la singularité de notre époque, c'est l'aggravation de cette catastrophe écologique. La deuxième chose qui a changé, c'est que cette catastrophe écologique qui est causée par les très riches, les hyper riches, les ultra riches, eh bien, ces hyper riches, ces ultra riches, d'une part, se sont énormément enrichis, déjà, depuis 2007, ont continué plus exactement à s'enrichir, et par ailleurs manifestent une nouvelle vision du monde, caractérisée par une croyance dans l'avenir de la technologie et dans l'idée que l'espèce humaine, dans son évolution, ou du moins une partie d'entre elles, voit son destin lié à cette technologie et à un développement toujours croissant de l'intelligence artificielle, des machines, des robots, jusqu'à ce que ces robots, ces machines, cette intelligence artificielle deviennent plus intelligentes, plus fortes que les humains. Et qu'il y aura une partie de l'humanité, petite partie, une petite élite qui sera capable de se fondre avec ces nouvelles machines super intelligentes pour créer en quelque sorte une classe à part. Donc ça, c'est les trois caractères essentiels qui caractérisent le changement depuis 2007, la catastrophe écologique, l'approfondissement des inégalités et le développement d'une nouvelle vision encore plus élitiste de la part des capitalistes. Mais il y a aussi des bonnes choses qui ont changé, parce qu'autrement, c'est même pas la peine de continuer cet entretien. Heureusement, il y a des bonnes choses qui ont changé. D'une part, la conscience quand même de ce qui est en train de se passer s'est accrue très fortement. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un sentiment qui est partagé par une très large partie des personnes dans les pays développés, comme d'ailleurs dans les pays du Sud. Deuxième chose aussi, c'est que cette conscience, elle n'est pas seulement sur l'aggravation de la crise écologique, mais elle comprend en quelque sorte que la question sociale et la question écologique sont totalement liées. C'est-à-dire que l'aspiration à la justice sociale et le bien-être écologique commencent à être vraiment très bien ensemble. Et il n'y a pas besoin d'être un grand intellectuel et de faire des grandes BD ou des grands bouquins pour le dire. Chacun, enfin énormément de choses, le ressentent avec leurs mots ou tout simplement dans leurs conditions mêmes d'existence. Et ça, après tout, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que les idées évoluent. Et le pouvoir des puissants est finalement de moins en moins accepté. Il le serait beaucoup moins s'ils n'avaient pas à leur solde les médias. Et dans les médias, je range les réseaux sociaux. Ce n'est pas un hasard si Musk dirige X. Ce n'est pas un hasard si Zuckerberg, qui vient de se prosterner devant Trump, possède Facebook et Instagram, etc. On pourrait dire la même chose de Google, de Microsoft. Et par ailleurs, ces gens ont développé des puissances de répression policière et juridique extrêmement importantes. Et s'il n'y avait pas ces armées de policiers, ces armées de technologies de surveillance, ces prisons qui sont pleines à ras-bord et qui enferment bien au-delà de personnes qui seraient délinquantes ou criminelles, eh bien, ces puissances, cette domination n'existerait pas. Et pour être toujours dans ce qui a changé du côté positivement, c'est qu'il y a beaucoup plus d'alternatives qui sont en chantier. Quand on a démarré en 2007 avec mon bouquin « Comment les riches détruisent la planète » ou même avec Reporter, on a commencé à tout de suite s'intéresser aux alternatives, c'est-à-dire des gens qui avaient des pratiques très différentes de la domination capitaliste. On avait quelques exemples en 2010-2012. Maintenant, on en a mais des centaines. Et encore, notre regard ne porte quasiment que sur la France. C'est-à-dire que partout, en tout cas en France, et je suis sûr que c'est le cas dans plein d'endroits dans le monde, il y a des gens qui, d'une manière ou d'une autre, cherchent à développer d'autres façons de vivre, d'autres façons d'être ensemble, d'autres façons de faire leur économie, de faire leur production, de partager, etc. Et que ça, c'est extrêmement positif, parce que ça prépare la société de demain. Et puis, pour conclure, il y a aussi de plus en plus de luttes. Plus de gens qui se bagarrent, il y a de plus en plus de révoltes. Ça a été très bien documenté par des chercheurs en sciences humaines qui travaillent là-dessus, qui font un compte des révoltes à travers le monde. Il y a même eu un papier il y a quelques mois dans la revue scientifique Nature à ce propos. Eh bien, il y a de plus en plus de révoltes. Donc voilà, on est à un moment de balancement où d'un côté, les criminels du climat, qui sont les hyper-riches, avancent avec une morgue incroyable et un mépris incroyable. Mais de l'autre côté, les forces de résistance et les forces d'imagination d'un autre monde sont de plus en plus vigoureuses, même si évidemment ça se voit moins parce que les médias mainstream, qui sont aux mains des milliardaires pour l'essentiel, ne veulent pas porter la lumière sur ce que je suis en train de dire.
Il n'y a pas que des constats négatifs à faire. Il y a heureusement, et peut-être est-ce un signe aussi, qu'il est déjà très tard, des réactions de toutes parts. C'est aussi ce que vous évoquez dans la BD « Comment les riches ravagent la planète » avec Juan Mendez. C'est qu'il y a un sous-titre. C'est « Comment les riches ravagent la planète, virgule, et comment les en empêcher ?»«
Comment les riches ravagent la planète ?» On essaie de mettre en scène la rivalité ostentatoire. C'est-à-dire, c'est une théorie de Thorsten Veblen qui explique le mécanisme par lequel les niveaux excessifs de richesse entraînent une dégradation générale de l'environnement. Et même si par l'histoire et par les dessins très drôles de Juan Mendes, on a raconté ça, je vais essayer de le faire, ça sera moins bien par oral, mais sachant qu'on s'est beaucoup amusé avec Juan Mendes, et j'espère que les lectrices et les lecteurs s'amusent aussi. En deux mots, Thorsten Veblen était un économiste de la fin du 19e siècle aux États-Unis et qui expliquait que dans toute société hiérarchique, dans toute société, en fait, les individus sont dans une sorte de concurrence symbolique les uns avec les autres pour montrer par quelques signes ostentatoires, c'est-à-dire ostensibles, extérieurs, qu'ils ont une petite supériorité symbolique avec leurs proches. Ça ne veut pas dire que c'est une rivalité violente ou agressive, ou c'est, j'ai des plus belles plumes à mon chapeau que toi, j'ai une plus belle montre, j'ai un meilleur écran de télé, ma voiture est plus belle, enfin voilà, c'est pas méchant quelque part, mais c'est comme ça que ça fonctionne.
Si on n'a pas des plumes à son chapeau à 50 ans, c'est qu'on a raté sa vie.
Oui, c'est ça, oui. À la limite, ça pourrait même fonctionner avec des écolos. Ouais, moi j'ai le meilleur vélo, t'as pas vu mon dernier bike, machin truc. Ça, c'est le premier point que dit Veblen. Et puis le deuxième truc qu'il dit, c'est bah, dans toute société hiérarchique, il y a donc des couches sociales inégales. Et quand on est dans une couche sociale où on va pratiquer cette rivalité ostentatoire, on va trouver le moyen de manifester cette petite supériorité symbolique par rapport aux autres en imitant un des traits ou plusieurs de ceux qui sont au-dessus, dans la couche sociale au-dessus. Et ceux qui sont dans la couche sociale au-dessus, ils sont eux aussi en proie à cette rivalité ostentatoire. Donc ils vont s'imiter les uns les autres, ou montrer plus exactement par quelques signes particuliers qui sont un peu supérieurs ou un peu plus prestigieux que les autres, en imitant ceux qui sont au-dessus d'eux. Et ainsi de suite, de bas en haut, ce qui fait qu'on se retrouve à un degré ou à un autre à être très fortement influencé ou à chercher à imiter, quoique de manière très dégradée, la façon dont ceux qui sont tout en haut, qui sont les plus riches, qui sont les plus puissants, vivent. Et ceux-là, ils sont aussi en pleine rivalité ostentatoire. Moi, j'ai le yacht le plus gros que toi. Par exemple, entre Bezos et Musk, qui sont quasiment les deux personnes les plus riches du monde, ils sont en train de faire « moi, j'ai la plus belle fusée que toi ». On est dans cette rivalité ostentatoire, qui est un peu ridicule, en fait, y compris au sommet. Et pourquoi, maintenant, pour conclure, ça s'articule avec la question écologique? Ça serait un trait anthropologique comme ça, quelque part, ça ne serait pas très grave, ou enfin, je ne sais pas. Mais là, le problème, c'est que dans la mesure où il y a une inégalité extrêmement grande à notre époque, où on est dans un état de richesse matérielle qu'on n'a jamais vu, c'est-à-dire de consommation matérielle qu'on n'a jamais vu. La prodigalité énorme, la surconsommation, le gaspillage exhibé par les gens qui sont tout en haut, va influencer l'ensemble de la société. Et comme, à la différence de l'époque de Veblen, on est maintenant une société totalement mondialisée, ça veut dire que si on habite à Jakarta, à Bornéo, au Cap, à Rio de Janeiro, on sait comment on vit à Orléans, à Tours, à Bruxelles ou à Paris, ou à Los Angeles ou à New York, eh bien, ce qui est montré tout en haut va inspirer l'ensemble des pratiques de consommation de l'ensemble du monde. Et comme il y a une énorme prodigalité, une énorme surconsommation, un énorme gaspillage tout en haut, eh bien, cet énorme gaspillage se retrouve à l'ensemble de la planète. Donc, on surconsomme les matières premières, on surconsomme l'énergie et on salope la biosphère.
Puisqu'on parle de maladies mentales qui affligent les riches et du coup toute la planète, on va en profiter pour vous passer l'un des tubes de cette émission qu'on vous a pas joué depuis un moment.
Quand on est riche, on est bien. Bien dans son corps, on a bon teint. On peut s'économiser, on n'est pas là à transpirer. Quand on est riche, on sent bon. Quand on est riche, on est heureux. Très. On vit dans un cocon moelleux. Même si on est vieux et petit, on plaît aux femmes jeunes et jolies. Quand on est riche, on est beau. Quand on est riche, on fait pas le ménage. Non, enfin, on peut quand on veut partir en voyage. On a un 4x4 imposant, alors on peut rouler sans peur. En cas d'accident, c'est l'autre qui meurt. C'est pas rigolo.
Pas toujours.
On doit payer beaucoup d'impôts.
Beaucoup trop.
Alors on est très affecté, mais on s'empêche de le montrer. Quand on est riche, on est discret. On est beau.
On est beau.
On est bien.
On est riche, chanson fétiche de cette émission, signée Erwan, qu'on a d'abord connu chez Java, qui officie aujourd'hui en tant que Sylvester Stallone dans Soviet Suprême, avec son comparse John Lennon. Retour à notre échange avec Hervé Kempf, cofondateur de l'excellent site d'information Reporter. Lutter, ça commence aussi par s'informer correctement. Or, en ce qui concerne la France, l'essentiel des médias privés sont possédés par une dizaine de milliardaires, en gros, et puis ce qui reste, ce sont les médias d'État au service de la bourgeoisie. Il y a malgré tout des îlots d'information, et puis il y a Reporter, le site Reporter, que tu as cofondé en 2007. C'est le plus ancien quotidien d'information sur l'écologie. Il y a une version papier d'ailleurs qui n'a pas duré très longtemps en 1989 parce que le papier c'est cher, faut payer l'encre, les imprimeurs, faut que les gens achètent le journal et finalement Internet en 2007 semblait la bonne solution. La preuve, puisque en 2023, ai-je cru lire, Reporter qui est en accès libre, sans publicité, qui est financé à 98% par des dons des lectrices. Reporter, c'est 25 salariés, une vingtaine de journalistes.
28 salariés maintenant en CDI, correctement payés, je souligne, dont 21 journalistes.
Ce qui fait l'indépendance de Reporter, c'est que ce sont les lectrices qui le finance. Dans Reporter, il n'y a pas de publicité, ce qui veut dire qu'il n'y a potentiellement pas de mainmise de multinationales sur l'info qui est délivrée sur ce site.
Oui, et d'autant plus que c'est une association, hein, c'est pas une société anonyme ou pas qui dirige Reporter, c'est une association, donc on est dans des logiques de non-profitabilité. Et ça, c'est important de le souligner, qu'on va bien, parce qu'en plus, nos finances sont bonnes, donc merci aux lectrices et aux lecteurs, merci aux donatrices et aux donateurs, et au passage, quand elles donnent à Reporter, elles permettent en fait à d'autres gens qui peut-être ont un petit peu moins d'argent ou une conscience un peu moins avancée, de lire les informations sur l'écologie et le regard que l'on porte sur le monde. Donc ça, c'est vraiment important. Et pourquoi c'est important de souligner que des médias comme nous, même comme Mediapart, on va bien, parce que ça fait partie des choses qui donnent espoir. C'est pas pour dire Reporter, lisez Reporter, c'est génial, et patati et patata, même si peut-être c'est un petit peu vrai. En tout cas, c'est intéressant, ça, on peut le dire, c'est sûr. Mais c'est important aussi de montrer qu'on peut développer dans tous les domaines, en tout cas celui de l'information, des méthodes différentes du capitalisme. Et que même ces méthodes sont plus efficaces que le système néolibéral du capitalisme qui veulent nous dire. Pourquoi ? Parce que quand vous n'avez pas une société privée, ou en tout cas que vous avez une association, mais ça pourrait être une société de type coopérative, eh bien, il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer. Ça veut dire quoi quand il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer ? Eh bien, qu'on n'a pas à prendre une partie des profits, ou pour nous qui sommes une association, on a des résultats positifs d'exploitation, on ne va pas les donner aux actionnaires qui en fait veulent le travail des gens, des travailleurs, des travailleuses. On va leur réinjecter dans la société. Et donc, nous, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? On en met une partie pour la sécurité, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être qu'on va avoir des coups durs, peut-être que ceci, peut-être que cela. Donc, il faut que pour pouvoir continuer à informer tout le monde et pouvoir payer aussi les travailleurs de l'information, on puisse avoir une sorte de filet de sécurité. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on va investir. Et nous, on va investir dans quoi ? Essentiellement en créant des emplois. Vient payer un peu plus de 2000 euros, tu vois, ce qui est dans la presse un salaire correct, et c'est normal, et on ne va pas presser les gens comme des citrons. Et les gens, ils vont être dans le bien-être, ils vont travailler, mais ils sont contents, parce qu'en plus, leur travail a du sens. Et ça, ça montre qu'on peut développer d'autres systèmes tout à fait économiques, réalistes et pragmatiques, sans passer par le capitalisme. Et je rajoute une chose aussi, c'est que l'échelle des salaires est limitée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu n'as pas des grands cadres ou des hauts cadres à rémunérer 5, 6 000 balles ou je ne sais pas combien, et qui fatalement vont pomper une partie de l'excédent. Et au passage, ça crée aussi un climat social, si j'ose dire, un climat entre les gens qui est plus agréable, parce qu'on sait que tout le monde bosse, il y a des petites différences de salaire, c'est quand même dit normal, en fonction de la compétence, en fonction du parcours, en fonction de l'âge, mais c'est pas, il n'y en a pas qui profitent sur le dos des autres. Donc voilà comment le fait qu'il y ait des entreprises au sens pas juridique du terme, mais au sens collectif, c'est vraiment important qu'on montre que toutes ces alternatives, Reporter, c'est une alternative dans le domaine de l'information, mais que dans plein de domaines, il y a des choses qui marchent bien. On peut vraiment se dire on va sortir du capitalisme. C'est possible. On n'est pas condamné à rester dans ce système où il y a des imbéciles ou des malades comme Trump, comme Musk, comme Bernard Arnault, comme Vincent Bolloré qui sont aux commandes avec toutes leurs conneries et leurs avions et leurs idées fascistes, mais qu'on peut vivre autrement tout en étant bien.
Quelque chose à noter sur la ligne éditoriale de Reporter, on peut y glaner sa moisson de mauvaises nouvelles, et c'est pas ce qui manque, mais équilibré, avec tout un tas de choses extrêmement positives et qui font du bien. Ce qui explique aussi un peu que j'ai lâché le monde diplomatique, que je trouve parfois un peu déprimatique, et que je vais un peu plus souvent sur Reporter, parce qu'on y trouve par exemple des portraits ou des récits de choses positives qui fonctionnent. Et puis Reporter fait aussi une place au dessin d'humour, et puis à la fiction. On ressort pas forcément systématiquement affligé de la consultation du site Reporter, on y trouve aussi des exemples qui marchent, qui donnent du grain à moudre.
Oui, et ça, on le fait depuis le début. Et là, je vais juste te donner, si vous allez sur Reporter, vous verrez en haut, vous cliquez sur Alternative, ce que je viens de faire en t'écoutant. Et voilà, je vous donne les articles qu'on a publiés à ce sujet depuis 2-3 semaines. Bien manger sans se ruiner, un village expérimente la sécurité sociale de l'alimentation. À Marseille, un réseau d'entraide entre maraîchers pour briser l'isolement. Une ferme solidaire pour l'insertion des jeunes de Seine-Saint-Denis. Il récolte du bois et le distribue aux plus pauvres, des tiny house relogent des sans-abri, des associations alimentaires d'aide alimentaire s'allier aux paysans pour lutter contre la malbouffe. Mais il y en a des dizaines et on le veut parce que, comme tu l'as dit, il faut qu'on ait des bonnes nouvelles, il faut qu'on ait de l'espérance, il faut qu'on ait de l'espoir. Parce que c'est la réalité. Nous, on informe. Et donc, on veut raconter tout ce que je te disais, à savoir que dans tous les coins de France, et d'ailleurs, il y a des gens de Belgique, par exemple, il y a des gens qui font des choses formidables et qui ne se laissent pas abattre. Et ce qu'attendent les dominants en ce moment, les dominants, ils veulent toujours une chose. Ils veulent qu'on ait peur d'eux. Ils veulent qu'on soit...
Déprimé et triste et défaitiste.
Quand tu es déprimé, tu vas aller bouffer du médicament, donc tu vas faire tourner les trusts pharmaceutiques, ça va aller vachement bien, et tu vas passer ta vie devant la télé à boire de la bière, et donc tu vas faire vivre Netflix et Cronenbourg. Donc ils sont heureux. Donc si nous, on montre que, mais non, il y a des gens, des femmes et des hommes qui ont la pêche, qui croient, qui sont dans le collectif, qui créent des trucs, eh bien, un, ça leur fait du bien. Deux, ça nous fait du bien. Et trois, ça nous donne des idées de reproduire aussi. Parce que le pire, c'est quand on fait quelque chose et qu'on est tout seul, qu'on fait quelque chose de bien, on est tout seul, on se dit, bon, il y a des moments d'abattement, il y a des moments d'échec, il y a des moments... Mais quand on se dit, ok, je galère un peu là en ce moment, mais ça vaut le coup. Et je sais qu'à tel bout du village, à tel bout de la ville, à tel bout du pays, il y a des gens qui font pareil. Et peut-être même que je vais leur écrire et qu'on va faire un réseau ensemble et qu'on va se filer des tuyaux. Eh bien, ça donne de la force collective. Et en fait, ce dont les dominants ont peur, c'est qu'on se donne de la force collective. Et c'est pour ça que ces alternatives, ce qu'on appelle alternatives, c'est essentiel. Et je vais même te dire, ça va être un des points de développement éditorial cette année à Reporter en 2025, parce qu'on ressent trop le fait que les gens sont déprimés. Eh bien non, on peut faire autrement et on n'est pas condamné au fascisme, on n'est pas condamné à Trump. Les Américains, ils ont fait leur choix, mais parce que ce n'est plus une démocratie là-bas, c'est l'argent qui dirige. Mais en France, on n'est pas condamné à Le Pen, ni à Bardella. Donc on va se bagarrer, on va faire des alternatives, on va montrer qu'on peut faire autrement et qu'on a la pêche.
Régulièrement, il faut qu'on me rappelle, il faut rappeler ce que les gens de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes prônaient déjà, ce qui se pratique également chez Bassine Non Merci et les Soulèvements de la Terre, c'est que ces gens sont parfaitement lucides, mais ils ont compris que la joie est un moteur, la joie de lutter, la joie de faire les choses ensemble.
T'as raison, c'est comme ça. Là, par exemple, en janvier, on a interviewé un philosophe québécois qui s'appelle Alain Deneau, qui écrit un bouquin vraiment intéressant, si vous avez l'occasion de tomber là-dessus. Ça s'appelle « Faire que » aux éditions Luxe. Et en gros, mais vous pouvez lire l'interview ou l'écouter ou la voir en vidéo sur le YouTube de Reporter. En gros, Alain Deneau, il dit la même chose. Il dit « Il faut être lucide et gai ». Lucide parce que, bah oui, on va pas se dire on est gay, on est joyeux, oulala, la vie est belle. Bah non, elle n'est pas absolument terrible. Il y a la catastrophe écologique, il y a ces riches, il y a le fascisme qui est aux portes. Donc, on regarde ça. On n'a pas peur de regarder et on n'a pas peur de décrire la réalité et de mettre les mots là où il faut. Mais en même temps, il faut qu'on soit gay. Parce que si on est dans la morosité, effectivement, bah, on n'aura pas l'énergie pour se battre. Donc, il faut être dans la lucidité, dans la gaieté. Et la gaieté, bah, généralement, bon, on peut rire tout seul. Mais en fait, c'est quand même beaucoup mieux de rire avec des amis. Être gay, ça veut aussi dire qu'on rentre dans le collectif. Et collectivement, on va faire face à la gravité du temps.
Si tu veux bien, je voudrais passer par une évocation très rapide de ton portrait. On remarquera ton aisance au micro, là. Pas étonnant. En début de parcours, il y a Radio Cocktail, il y a Je t'aime FM, Radio Alligator. Tes premières armes médiatiques, tu les as faites en radio libre ?
Bah oui, on avait créé Je t'aime FM avec des amis. Ça n'a pas duré longtemps, mais moi, j'avais adoré ça. On s'était beaucoup amusés. C'est ça qui m'a dit que je voulais devenir journaliste, en fait. Parce qu'avant d'avoir fait ça, je ne savais pas quel métier je ferais. Et après, j'étais sur Radio Alligator 6 mois... J'ai adoré aussi. Tu mets le doigt sur un des regrets, c'est que j'aime beaucoup la radio, c'est un média que j'aime bien, je le trouve magique, aussi bien en auditeur d'ailleurs, quand j'ai la joie ou l'honneur d'être comme tu me le permets de parler. C'est un média fort parce que d'abord ça passe par la voix. La voix, c'est un truc bizarre, quoi. C'est à la fois la personne, tu as l'intimité de la personne que tu entends, surtout si on est dans des moments comme celui que tu nous proposes où on peut parler, écouter, là on prend le temps, quoi. C'est pour une heure qu'on soit dans la voiture ou en train de faire la vaisselle ou en train de prendre son bain ou de faire je sais pas quoi. Et en même temps, c'est les idées. Parce que c'est pas comme à la télé où on voit le visage, on va voir s'il a un bouton sur le nez, on va voir s'il a mis une cravate verte, on va voir si je sais pas quoi. Non, la radio, ça, c'est à la fois très charnel, très intime, très corporel. Et parce que la voix, c'est un élément du corps, mais c'est cet élément du corps bizarre qui est impalpable, qui nous amène, j'oserais pas dire au spirituel, mais qui nous amène dans l'idée, qui nous amène ailleurs. Et voilà, cette double caractère de la radio, moi j'aime beaucoup.
Je voudrais revenir aussi sur un truc, on évoquait la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Tu rentres à la rédaction du Monde en 1998 et tu la quittes en 2013. Est-ce que tes articles sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes sont à l'origine de cette scission? Sachant que tu as cofondé Reporter en 2007, hein, pendant que tu étais au Monde, est-ce que c'est ton regard et ton traitement sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui a fait que tu as cessé cette collaboration avec le Monde?
Ah oui, tout à fait. Je l'ai raconté dans un long article que vous pouvez retrouver facilement et qui s'intitule « Adieu le monde, vive reporter ». Et oui, c'est tout à fait ça qui s'en est passé. Alors bon, moi j'ai de bonnes relations avec le Monde maintenant, donc ça va. C'est effectivement un acte de censure à l'époque, puisque moi je suivais Notre-Dame-des-Landes depuis plusieurs années. J'avais consacré énormément d'articles à ce sujet depuis 2008, je crois. Et puis arrive en fin 2012 l'opération policière de répression sur la ZAD qui s'appelait César. Et je dis à mes chefs de service, mais il faut parler de ça, c'est extrêmement important. C'est l'actu environnementale ou écologique du moment. Et ah ben non, et en fait, ils m'ont empêché d'en parler et de le suivre. Et donc, au bout d'un moment, on est rentré dans un bras de fer. Et j'ai dit, c'est plus possible cette censure. Donc voilà, on est rentré dans un conflit. Et au final, j'ai quitté le Monde parce que c'était intolérable de travailler dans des conditions pareilles.
Qu'est-ce qui justifiait cette censure de l'époque et de la rédaction de l'époque?
Oh ben, on va dire simplement quand même... Avant, Le Monde avait été un journal libre, Il a été racheté en 2010 par messieurs Xavier Niel, Pierre Berger et Mathieu Pigas. Des milliardaires, des millionnaires, des tenants de l'ordre établi. Alors, ils sont un peu moins brutaux et vulgaires que Trump et Musk, mais ils défendent le même système, quoi. Donc, voilà, à partir de ce moment-là, tu peux imaginer que moi, en tant que journaliste du Monde, j'étais opposé à ce rachat, mais j'étais minoritaire, donc la rédaction ne s'est pas beaucoup bagarrée à l'époque. Et bien, fatalement, au bout d'un moment, ça a commencé à transformer les choses. Et il se trouve que ces capitalistes-là, ces propriétaires, soutenaient ou avaient envie de soutenir le gouvernement de Hollande, qui venait d'arriver président de la République, et Notre-Dame-des-Landes, juste en octobre 2012, ben, ça faisait désordre pour les démarrages d'un gouvernement pseudo de gauche. Et donc, il fallait peut-être pas trop en parler quand on était un journal dont les propriétaires voulaient soutenir le gouvernement de M. Hollande.
Juste pour l'anecdote, parce que ça m'a fait rire, en 2016, on veut t'attribuer la Légion d'honneur et tu la refuses.
Ah oui, oui.
Quelle drôle d'idée d'attribuer la Légion d'honneur à un gars qui soutient des éco-terroristes, ce qui va nous amener au sujet suivant.
Oui, alors bon, non, à l'époque, on n'employait pas ce terme. Oui, je sais pas. En plus, c'est marrant, je crois que c'était Ségolène Royal, qui était à l'époque ministre de l'écologie, qui avait eu cette idée baroque, je sais pas pourquoi. Parce que j'avais toujours été assez critique de Ségolène Royal. Et je sais pas, en fait. J'ai dit non, évidemment, tu vois. Non, un journaliste ne peut pas recevoir la Légion d'honneur. C'est simplement inconciliable. Être journaliste, c'est être libre. Être libre pour pouvoir rapporter avec le plus d'honnêteté et d'indépendance possible ce que l'on comprend de la réalité. Ça ne veut pas dire que si moi je te raconte la réalité, j'aurai toujours raison. Mais en tout cas, tu es sûr que si j'ai mon éthique de journaliste, j'essaierai de le faire avec le plus d'honnêteté possible et que ce n'est pas quelqu'un qui me fera décrire quelque chose à ma place. Et ça, si par hasard on a la moindre compromission avec le pouvoir, avec les pouvoirs, eh bien, on altère notre indépendance. Donc, moi, j'ai rien contre Ségolène Royal ou contre les élus. Hein. Voilà, mais en revanche, je peux en dire du bien, je peux en dire du mal. L'essentiel, c'est que je sois libre, mais on ne peut pas accepter une Légion d'honneur. Quand je vois des journalistes qui acceptent la Légion d'honneur, je me dis, bon, c'est dommage, ils sont perdus pour la cause, ils sont perdus, quoi. Ils n'ont simplement pas compris. J'ai vu un ordre du mérite aussi, que j'ai aussi refusé par un autre ministre. Bon, voilà.
Au moment où nous avons cette conversation, Hervé Kempf, nous sommes en janvier 2025, en plein dans les commémorations du massacre de Charlie Hebdo. Tu te souviens de ce que tu faisais ce jour-là, ce 7 janvier 2015 ?
Oui, enfin, c'est bien. C'est arrivé dans la matinée, je crois. Ben, on était à l'époque, Reporter était un tout petit média. Hein. On était beaucoup moins nombreux qu'on est maintenant. On devait être 3 ou 4, peut-être 5, je ne sais pas. Tout de suite, ça a été un choc, une horreur. Et puis, le deuxième temps, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant que journaliste ? Qu'est-ce qu'on a à raconter là-dessus ? On s'est rendu compte très vite, hélas, que Fabrice Nicolino, qui est un journaliste d'écologie de très longue date, travaillait aussi à Charlie Hebdo et avait été gravement blessé. En plus, moi, c'est un ami de longue date, donc j'étais encore plus anxieux. Est-ce qu'il, par hasard, il aurait décédé ? Tu vois, j'étais une horreur absolue. Il faudrait retrouver les articles qu'on a publiés le lendemain ou l'après-midi même. Mais c'était un message en évoquant le traumatisme qu'on ressentait et racontait peut-être Fabrice Nicolino et que l'écologie était impliquée là-dessus. Et puis je crois qu'on a fait un article aussi le lendemain en rappelant ce qu'avait été Charlie Hebdo, non pas le Charlie Hebdo de 2015 ou ce qu'hélas il est devenu depuis les années 2000, hein, qui est vraiment...
Le Charlie de Philippe Val, oui.
Oui, qui est désastreux. Alors le fait qu'il soit désastreux, enfin selon moi un journal... discutable. Voilà, on va en rester là.
Il y avait encore Les Vieux de la Vieille, il y avait Cavana, il y avait Ciné, il y avait Cabu, il y avait l'excellent Luz.
Oui, oui, oui. En tout cas, c'était une abomination de ce qui s'est passé, quoi qu'il arrive. Et même dans des journaux avec lesquels on ne serait pas d'accord, les actes de ce type ne sont simplement pas imaginables, acceptables, tolérables, et on était saisi par l'horreur. Mais on a rappelé ce qu'avait été Charlie Hebdo dans les années 70, qui avait été un journal aussi extrêmement important, avec Pierre Fournier notamment, et le soutien de Cavana et de Rézère pour raconter très tôt et très bien la gravité des questions écologiques ou qu'à l'époque on appelait environnementales. Et donc Charlie Hebdo s'inscrivait totalement dans l'histoire du mouvement écologique en France, même si à partir des années 80-90, il a pris une direction totalement différente.
Je repasse donc par ce traumatisme de l'assassinat de gens de nos familles spirituelles, parce que voilà, la personne qui te parle là, a été élevée avec Harakiri, avec Charlie Hebdo, avec les BD de, aujourd'hui devenus des objets historiques et certainement très discutables. Hein. On pourrait parler du machisme de Volinsky, mais peu importe, c'est pas tant par là que je voulais passer. C'est que non seulement il y a eu le massacre de Charlie, après il y a eu le Bataclan, et donc on a pu voir ou se souvenir de ce que c'est que le terrorisme. Je passe par là parce que a émergé récemment, et je crois dans la bouche de Gérald Darmanin, le fumeux concept d'éco-terrorisme que le pouvoir applique à tous ces militants zadistes. Voilà, on ne disait pas encore éco-terroriste pendant les temps forts de Notre-Dame-des-Landes, de la lutte contre cet aéroport inutile, mais il est abondamment employé aujourd'hui contre les militants anti-mégabassines, etc. Qu'est-ce que ce concept d'éco-terrorisme t'inspire ? À l'aune des exemples de Charlie et du Bataclan.
Mais ce n'est pas un concept, c'est très représentatif de ce que font les capitalistes et leurs valets aujourd'hui. Et c'est là que la situation est devenue particulièrement grave depuis quelques années. C'est qu'ils n'ont plus le respect de la vérité. C'est manifeste chez Trump. Et malheureusement, Trump a une telle influence que ça se répand chez beaucoup de responsables, entre guillemets, politiques, surtout de droite et d'extrême droite. C'est le ne pas respecter la vérité. Il y a quelque chose qui était important, ben, puisqu'on parle d'années anciennes, dans les années 60-70, il y avait des affrontements politiques très forts, très forts. Il y avait des clivages politiques très forts. Mais au moins, on arrivait à se mettre d'accord sur des faits. On essayait de chercher la vérité, et puis quand des faits étaient établis, eh ben, on discutait, on s'engueulait, on s'empaillait, voilà, hein, c'était pas bisounours. Maintenant, on a l'impression que ces faits n'existent plus. Ils ne font plus attention aux faits. On ne cherche même plus à trouver un terrain commun qui s'appellerait, non pas la vérité, mais ce sur quoi on peut se mettre d'accord pour savoir sur quoi on s'engueule. Et donc, un des aspects de cette ère de la post-vérité, comme on dit, ça va être d'employer les mots mal à propos et de prendre n'importe quel mot et d'en faire n'importe quel usage. Donc déjà, le mot terroriste, il est très compliqué. Il est très compliqué. Il n'y a pas de définition juridique claire, mais on peut dire c'est la volonté de provoquer la terreur chez un adversaire. De ce point de vue-là, tu parles de Charlie Hebdo, tu parles du Bataclan, qui sont des événements, et on pourrait en citer hélas des dizaines et des dizaines, mais il y a quelque chose qui est abominable, qui est en train de se poursuivre depuis le 8 octobre 2023 en Palestine et à Gaza, qui est ce que la Cour pénale internationale et un grand nombre d'États et de personnes et de citoyennes et de citoyens disent c'est que l'État d'Israël commet un génocide. Et qu'évidemment, l'État d'Israël pratique un terrorisme à une échelle qu'on n'avait pas vue depuis des décennies. Donc voilà ce que signifie le terrorisme. C'est la volonté de terroriser une population en employant des moyens d'une barbarie et d'une horreur énorme. Et en disant ça, je n'exclus évidemment pas les actes qu'ont commis le Hamas le 7 octobre 2023. Mais après, on a changé d'échelle. Et donc, quand j'ai entendu ce monsieur Darmanin employer ce mot, mais simplement, on ne le prend pas au sérieux, je refuse moi-même d'employer ce mot. Je considère que monsieur Darmanin est totalement irresponsable. Parce que quand on est à ce niveau de responsabilité, quand on est ministre de la République française, voilà, c'est les mots qu'ils emploient, c'est leur fonction, ils se battent pour les avoir. Eh bien, on fait attention aux mots, parce que, après tout, je vais faire mon petit patriote aussi, mais il y a beaucoup de mauvaises choses dans notre pays, mais beaucoup de belles choses, et il y a quelque chose qui s'appelle la langue française, la littérature, la poésie, le sens du discours, le sens de la rhétorique, et tout ça, ça nous oblige à employer les mots les plus justes possibles. Donc voilà, je récuse simplement ce qu'a dit M. Darmanin, et pour moi, ça témoigne que ce monsieur n'est pas sérieux et ne mérite pas beaucoup d'attention. En revanche, c'est un homme dangereux, mais voilà, il n'y a pas d'écolo-terroriste. Je ne connais pas de mouvement écologiste qui ait voulu tuer quiconque. Et quand il y a eu le retour de Sainte-Soline en mars 2023, moi personnellement, j'y étais pas, mais je le suivais évidemment, et on a des journalistes qui ont été sur place et des camarades qui ont sur place. Et je me rappelle que la semaine suivante, après, il y avait eu un déchaînement de police, il y a eu 5000 grenades lancées en 2 heures, il y a eu des flashballs, des LBD, enfin, 2 personnes dans le coma, des dizaines de blessés, c'était vraiment une horreur. Et la semaine suivante, on s'est retrouvé quelques centaines ou milliers place de l'Hôtel de Ville, et je discutais avec un ami qui y avait été, Frédéric, qui était au bord des larmes, et il me dit « Mais Hervé, on allait pour sauver l'eau, on allait pour défendre l'eau, et ils veulent nous tuer. » Et donc, s'il faut employer ce mot de terroriste, et ce que j'essaye de ne pas faire, mais si vraiment ils veulent l'employer, eh bien, nous sommes maintenant dans une situation où nous sommes face à des États terroristes. Et c'est bien pour ça que j'ai parlé de l'État d'Israël. Mais ce que signifie M. Darmanin, et on sent que M. Retailleau est parti sur la même voie, et dans le déploiement exagéré de la force policière qui s'est exercée non seulement contre les écologistes, mais aussi contre les Gilets jaunes, qui étaient une révolte populaire, mais aussi contre les citoyens qui manifestaient pacifiquement contre la réforme des retraites, c'est en fait l'État qui n'est plus dans une logique de maintien de l'ordre, ce qui serait compréhensible, éventuellement de répression, ce qui serait éventuellement discutable et compréhensible, mais vraiment de terroriser ses propres citoyens pour les empêcher de manifester.
Quelle est la position de la rédaction de Reporters, et puis la tienne aussi, vis-à-vis de la notion de rapport de force? Pour avoir lu l'excellent livre signé « Les soulèvements de la Terre », écrit à plusieurs mains, « Première secousse », excellent bouquin, hein, dont on vous a dit tout le bien qu'on en pensait, chez les soulèvements de la Terre, il y a des gens qui disent « voilà, nous ne sommes pas forcément un mouvement non-violent ». Quels sont les mots, vous, que vous utilisez vis-à-vis de ces gens qui n'hésitent pas à faire rempart de leur corps, à prendre des risques, de se faire tuer, éborgner, arracher des mains, en allant se confronter aux forces de police ou de gendarmerie, comme ça a été le cas, par exemple, le 25 mars 2023, à Sainte-Soline, où des centaines de policiers gardaient un trou vide, parce que la méga-bassine de Sainte-Soline n'était même pas bâchée à l'époque, et où des dizaines de milliers de manifestants sont allés symboliquement prendre d'assaut, tout ça autour d'un trou vide. En tout cas, vous, à Reporter, comment vous vous positionnez? D'autant plus que dans Reporter et ailleurs, on a pu lire que la justice a déclaré illégale la bassine de Sainte-Soline.
Nous, on est des journalistes, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va informer. On va essayer d'informer le mieux possible. Donc, on va raconter ces manifestations, ces luttes, etc. Et par ailleurs, on va, et on l'a fait, être une caisse de résonance ou d'écho des débats au sein du mouvement écologiste sur l'emploi ou non de la violence. Et donc, comme c'est des sentiments et des opinions ou des lignes politiques différentes dans tous les mouvements, ben, on a eu de très nombreux papiers. Moins d'ailleurs depuis quelques temps, mais il y a quelques années, c'était un débat très vif au sein du mouvement écologiste. Et notre rôle, c'était de le faire savoir en publiant des papiers des uns et des autres, des tribunes des uns et des autres. On est journaliste à la base, hein. Enfin, on peut avoir des analyses, bien sûr, mais notre rôle, c'est d'informer sur les événements et d'informer sur les débats en essayant de les faire vivre et en donnant la parole aux uns et aux autres. Là, je crois qu'on est arrivé, me semble-t-il, parce que l'expérience depuis 15 ans a beaucoup progressé, notamment parce que la violence de la répression d'État qui se transforme éventuellement en terrorisme, d'ailleurs, je l'ai dit, d'État, s'est prodigieusement accrue. C'était compliqué. Nous, par exemple, non seulement on est né de cet acte extrêmement violent de Notre-Dame-des-Landes, enfin de l'opération César contre Notre-Dame-des-Landes, qui était quand même une première dans le genre, en octobre-novembre 2012, ce qui a été, hélas, notre premier scoop, mais la première raison, la première démonstration de notre utilité, c'est quand Rémi Fraisse est mort, octobre 2014, et où, comme nous étions déjà avec des journalistes sur le terrain et qu'on suivait très attentivement ce qui se trouvait à Sivens, on a pu, le lendemain même, contredire la version officielle et affirmer, fait à l'appui, que c'est une arme d'un gendarme qui avait tué Rémi Fraisse. Et donc, depuis cette époque, On est Reporter est un média qui est né non seulement contre la censure, mais la censure qui visait des luttes écologistes. Et raconter ces luttes écologistes en découvrant avec un peu de stupéfaction, je l'avoue, la violence croissante de la part de l'État contre... Une fois de plus, il s'agit de défendre l'eau, il s'agit de défendre la terre, il s'agit de défendre le climat, et on se trouve confronté à des États qui utilisent tous les moyens, y compris celui de la capacité de tuer. Donc voilà, ça a beaucoup monté pendant des années, on a fait beaucoup de boulot et d'informations là-dessus, et je dirais, j'ai l'impression que maintenant il y a une sorte de consensus, même si le débat sur la violence et la non-violence n'est pas clos, mais une sorte de consensus sur ce qu'on appelle... Et tu as raison de rappeler ce livre, il est très première secousse, c'est un livre très intéressant, Des soulèvements de la terre, et notamment parce que je l'ai trouvé très honnête ce livre, parce qu'il prétend pas savoir, il pose des questions, il dit ben voilà, nous on est un peu au milieu du guet, on réfléchit, on n'est pas sûr de tout, mais voilà un peu les pistes où on en est, et voilà les questions qu'on se pose. Et de ce point de vue-là, c'est très utile, mais ce livre et d'autres, et puis surtout nous on voit dans les terrains de lutte, c'est qu'il y a... Il y a un peu un accord qui se fait entre certains seront prêts à aller à la violence. Rappelons que c'est une violence défensive essentiellement. Ce n'est pas une violence offensive. Quoique dans le cas de Sainte-Soline, ça pourrait être discutable parce qu'il y avait une petite partie des gens qui voulaient aller dans la confrontation directe avec les forces de police. Mais grosso modo, il y a l'idée que, eh ben, il y a un panachage dans l'ensemble du mouvement écolo, et j'allais dire presque dans le mouvement social, et on admet que certains veuillent aller à la confrontation. Ça ne va pas dissuader d'autres d'aller dans une logique de manifestation beaucoup plus pacifique, parce qu'on accepte, il y a presque un mot, la diversité des modalités d'action.
Et encore, je reviens là-dessus, hein, même s'il y a des personnes chez les soulèvements de la Terre qui pensent nécessaire le rapport de force et qui ne se définissent pas forcément comme un mouvement non-violent, de ce que j'ai pu par exemple observer à Sainte-Soline, c'est une violence chez certains individus, hein, c'est chez celles et ceux qui la prônent, qui reste somme toute très limitée. Alors évidemment, pour mettre le feu à une estafette, faut certainement un cocktail Molotov. Il m'est arrivé de voir des gens utiliser des feux d'artifice, mais enfin contre un bouclier en plexiglas et des robots Bocop habillé de pied en cap, c'est rien du tout. Mais cette violence, même si elle peut être employée, reste très limitée. Il n'y a pas d'armes à feu, par exemple, chez ces gens qui veulent instaurer le rapport de force. Donc il y a une violence que j'oserais pas qualifier de symbolique, mais malgré tout mesurée chez les quelques individus qui la prônent. Loin de moi l'idée de jeter un quelconque jugement sur ces gens. En fait, si, personnellement, je trouve qu'ils ont bien du courage et qu'ils font ce que moi, je n'ai pas le courage de faire.
Le mot le plus important, c'est rapport de force. Et rapport de force, ce n'est pas forcément un rapport de force à la force, j'allais dire physique. Un rapport de force, c'est un rapport de force. Et il n'y a aucun doute que nous sommes engagés dans des rapports de force. Si on reprend le début de cette conversation et le propos qu'avec Juan Mendes, on tient dans comment les riches ravagent la planète et comment les en empêcher, nous sommes plus que jamais dans un rapport de force. Nous sommes dans un rapport de force entre une petite classe cupide et malade, pour reprendre tes mots, est dangereuse contre une très large partie de la population mondiale. Et donc, on est dans un rapport de force, c'est-à-dire que si on laisse ces Musk et compagnie, et Trump, et Bolloré, et Retailleau, et toute cette bande de... et Le Pen et Bardella l'emporter, ça va aller très mal, non seulement pour les pauvres et les travailleurs et les travailleuses, mais ça va aller très mal pour tout le monde parce que ça va être une aggravation encore plus rapide de la situation écologique. Donc oui, nous sommes dans un rapport de force. Ils ont la force, nous en avons aussi, et il faut qu'on s'organise. Et après, quels sont les moyens par lesquels on fait évoluer le rapport de force? C'est-à-dire que l'idée... Moi, c'est marrant parce que, personnellement, je suis tellement peu dans ces logiques. L'écologie, elle est fondamentalement pacifique. Le fait d'être pacifique ne signifie pas qu'on évacue la question politique. Et puisque la question politique, maintenant, est devenue celle d'un rapport de force, la question, c'est pas violence ou pas violence, mais quels sont les moyens qu'on va employer dans l'éventail de nos forces possibles pour faire reculer l'adversaire. Et parfois, le rapport de force rendra utile, voire nécessaire, une confrontation physique, et parfois donc non. Et parfois aussi l'idée d'une confrontation physique face à la répression, il y aura un tel déséquilibre du rapport de force ponctuel sur le terrain, par exemple comme c'était le cas à Sainte-Soline, qu'il peut y avoir une mauvaise appréciation des rapports de force. Il faut être fin là, nous sommes face à des gens, peut-être pas tous terroristes, mais dont on a vu que certains de leurs démarches le sont. Ils sont très violents, ils sont très sûrs d'eux, ils possèdent tout apparemment. Donc, nous, apparemment, on est faibles. Et donc, il faut qu'on soit plus intelligent qu'eux, qu'on les surprenne. Et qu'à chaque fois, on évalue le terrain. Alors, pour prendre cet exemple de Sainte-Soline, je ne juge pas si c'est bien ou mal. Et là, c'est mon analyse personnelle, ce n'est pas celle de reporter. Parce que là, il y a des cas, je ne peux pas parler au nom de la rédaction parce qu'on est une collection de personnes qui avons leurs idées et on a des débats au sein de la rédaction. Donc là, c'est Hervé Kempf qui parle. Et bien, dans ce cas-là, il y avait une mauvaise appréciation du rapport de force ponctuel sur cette situation par rapport au rapport de force global. Et donc, quand il y a un rapport de force, il faut bien évaluer les rapports de force. C'est toujours ça, un des points. Tout à l'heure, on disait il faut être lucide et gai. Eh bien, dans la lucidité, il y a aussi bien évaluer les choses. Et je vais te prendre, moi, j'ai une phrase que j'aime bien de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, ok, c'est devenu un très méchant dictateur, un abominable dictateur, et l'évolution de la Chine a été compliquée, mais ça a quand même été quand même un guerriero très avisé hein, lors des guerres d'indépendance de la Chine dans les années 1920-1930, et il a notamment fait la Grande Marche, qui est quelque chose d'incroyable. Mais bon, je ne vais pas faire l'histoire de la Grande Marche ici. Mais grosso modo, il disait quelque chose d'apparemment très bête, mais si vous réfléchissez bien, c'est pas mal du tout. Quand l'adversaire avance, je recule. Quand l'adversaire recule, j'avance. Ça veut dire quoi? Qu'il faut toujours apprécier le rapport de force. Où est-ce qu'on en est à un moment donné? Quand ils sont très forts en face, ils sont dans toute leur dynamique, etc., c'est pas le moment d'aller au contact parce que tu vas te faire bousiller. Donc, t'attends un peu là. Tu restes quand même en vigilance, tu restes en défense. Et fatalement, il va y avoir un moment où ils vont être emportés, ils vont se disputer, ils vont faire une grosse erreur, ils vont faire ceci. C'est à ce moment-là qu'il faut y aller. Tu comprends? Voilà, c'est évaluer un rapport de force. Et évaluer un rapport de force, ça veut dire bien peser les forces en présence. Et savoir dans quel cadre général on établit évidemment cette position tactique.
Le rapport de force, on l'aura vu sur Sainte-Soline, était nécessaire et justifié puisque la justice a donné raison finalement aux anti-bassines, là récemment, en déclarant la bassine de Sainte-Soline et d'autres illégales. Donc finalement, ces vilains black blocs, éco-terroristes, je ne sais pas quoi, n'avaient pas si tort, puisque la justice, pour préserver l'outarde, en l'occurrence, hein, la justice n'a pas du tout regardé les arguments sur l'eau. Enfin, grâce à l'outarde, la bassine de Sainte-Soline a été déclarée illégale, ce qui donne raison finalement aux gens qui s'y sont opposés, et qui s'y opposent toujours.
Je ne sais pas, parce que nous ne pouvons pas affirmer que les juges ont pris cette position parce qu'il y avait eu des manifestations avec beaucoup de violence, surtout d'un côté et un petit peu de l'autre, en mars 2023. En revanche, ce qui est certain, c'est que oui, il y a bien eu un jugement, et le jugement, il était négatif à l'égard des méga-bassines.
Et en tout cas, je l'ai appris en consultant Reporter. On le rappelle, hein, le site est en accès libre, on peut y aller trouver toute l'info qu'on veut, et c'est pas que des infos qui plombent. Hervé Kempf, avant qu'on se quitte, c'est quoi l'avenir pour Reporter? C'est quoi l'actualité pour Reporter?
Reporter va, comme je vous ai dit, vous, collectif, auditrices et auditeurs, continuer à informer le mieux possible au jour le jour. On va renforcer les enquêtes que l'on mène, cultiver encore plus les alternatives, tout ce qui donne de la pêche, tout ce qui dit comment est-ce qu'on pourrait faire, comment on réfléchit ensemble pour empêcher le fascisme et la destruction du monde de se poursuivre. On va être très déterminé aussi face à toutes les forces répressives, parce que finalement, en temps, on se rend compte commence à peser un petit poids, on a une responsabilité avec les autres médias indépendants, donc poursuivre d'ailleurs un travail en commun avec les médias indépendants autant qu'il est possible, et puis dire fortement qu'on ne cédera pas sur un certain nombre de choses, comme je l'ai dit. Et puis dans l'histoire même de Reporters, il y a quelque chose d'important qui va se passer, c'est le départ de Hervé Kempf.
Ah.
Voilà, c'était un garçon sympathique et il a peut-être pas trop mal travaillé, mais l'âge étant venu, il va prendre sa retraite. Donc on a.
Et ben voilà. François Fillon et Raffarin avaient raison. Les gens ne veulent plus travailler.
Voilà, à 67 ans.
Quand je vois tout le jus qu'on pourra encore tirer de toi, c'est vraiment un scandale.
Ouais, non, mais attends, on n'est pas mort à la retraite, hein. D'abord, et puis non, mais il faut place aux jeunes, quoi. Place aux jeunes. Là, il va y avoir une nouvelle directrice de la rédaction qui va commencer à prendre en charge en mars-avril, et au contraire, on va repartir avec une nouvelle pêche, avec une nouvelle dynamique, parce que moi, je pense que, et ça sera une femme, et je pense que je veux pas m'accrocher, et puis il faut des gens de la génération, et ça ne veut pas dire que les gens de 60 ans et plus, ils sont has-been, hein. Moi, j'espère continuer à être utile, à faire des BD, à filer des coups de main aux uns et aux autres, à ceci, à cela, mais non, vraiment pour Reporters, donc ça va être un rebond pour Reporters, qui au passage va très bien. Merci à vous toutes et à vous tous de nous soutenir, mais nos finances sont saines, et donc on peut continuer à embaucher tout en garantissant totalement notre indépendance, et il va y avoir du sang nouveau, donc ça va se développer.
J'ai vu d'ailleurs une offre d'emploi là récemment sur le site de Reporters, on cherche un ou une journaliste.
Oui, spécialisé enquête pour renforcer notre pôle enquête. On va sans doute lancer encore d'autres annonces dans les mois qui viennent, d'autres journalistes, parce que nous, ce qu'on sait faire, ce qu'on veut faire et ce qu'on croit qu'on est utile, c'est apporter toujours de la meilleure information avec le regard tel qu'il a pu être défini un peu dans l'entretien que tu me fais l'honneur d'avoir animé, et parce qu'on en a besoin. Donc, on est solide grâce à vous, grâce aux donatrices, grâce aux donateurs, et on va continuer à faire ce boulot, et donc il y aura de plus en plus de journalistes. Parce que pour faire de la bonne information, c'est du travail, ça ne se voit pas. Donc d'ailleurs, au passage, il faut soutenir les radios libres. Hein. Il faut soutenir les radios libres. Même 1 euro, il faut se dire. Hein. Même 1 euro, 2 euros, tout le monde est un peu dans la dèche. Même 2 euros, c'est utile. Même 1 euro, c'est utile. Et au pire, vous envoyez un mot de soutien en disant, nous, ça nous arrive souvent à Reporters, des gens très gentils. Ouais, je suis en galère, je suis au RSA. Je ne peux vraiment pas vous soutenir ce mois-ci ou cette année, mais... c'est bien que vous soyez là. Donc même un petit mot chaleureux comme ça, ça aide à continuer, parce que c'est pas facile pour les radios libres, pour les médias, pour beaucoup de journalistes qui se battent pour avoir une information libre.
Et on peut même à Reporters donner des petits sous, 2, 3, 5, 10 euros, ou envoyer un petit mot gentil même.
Absolument, oui.
Pour clore, Reporters a aujourd'hui un petit poids. J'ai cru voir le chiffre de plus de 33 millions de visites pour 2023. Vous avez des chiffres de fréquentation pour 2024 ?
C'est à peu près le même ordre de grandeur. Ça doit être pareil, assez stable en 2024. Et par ailleurs, on se développe beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a la lettre d'info auquel vous pouvez vous abonner, qui est gratuite. On a énormément, 150 000 abonnés, je ne sais plus, et tous les réseaux sociaux sur lesquels on va. Sur X, on ne sait pas encore si on va y rester, on va voir.
Vous avez une petite idée quand même.
Non, je dis parce qu'au moment, où l'émission sera diffusée, on aura pris la décision. On doit faire une réunion dans 2 jours, là, et je ne vais pas préempter la décision collective.
En tout cas, merci à Reporters et à son équipe de journalistes et dessinateurs, dessinatrices. Merci pour le boulot que vous faites. On rappelle, un Reporters est en accès libre. Il n'y a pas de publicité et a priori, on peut s'y fier. Merci pour ce travail.
Merci à toutes et à tous.
Et voilà les amis, c'est ici que prend fin cette conversation avec Hervé Kempf, cofondateur de Reporters, dont la rédaction a depuis bien évidemment acté l'abandon du réseau X du fasciste Musk. Vous pouvez télécharger cette émission depuis notre site, polymix et la voix off.com, avant qu'on se retrouve très prochainement sur votre radio libre préférée. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.